Merci à tout cas, merci au président de la communauté de Sarcelles, merci à tous ceux qui continuent à faire vivre cette communauté contre vents et marées. Et j'ai cru comprendre que ici, comme beaucoup d'enfants, ce n'était pas toujours facile. Pourquoi est-ce que nous sommes ici ce soir, Fayel, expliquer, c'est une première pour cette soirée de l'Arche. Moi, pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire dans l'Arche, j'avais 20 ans. C'est pas hier, hein. Après j'ai fait différentes choses, mais bon, voilà. C'est-à-dire de l'attachement particulier que j'ai pour ce magazine. C'est là que j'ai écrit pour la première fois dans un long mail. Pour évoquer avec vous ce numéro, avec ce dossier spécial qui est titré « Grand malaise des Juifs français », qui arrive à un moment particulier. Il arrive à pratiquement un an pile de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle en France a toujours été. Vous m'entendez bien ? Ça va ? L'élection présidentielle en France a toujours été un moment très important de la vie démocratique, mais celle qui arrive, l'accrochage, je pense, dans la vie de mes camarades 13, est particulièrement important. Vous avez parlé de fin d'un cycle pour les Juifs de France. Je pense qu'on est peut-être à la fin d'un cycle démocratique pour la société française dans son ensemble. Puisque, au fond, pour l'instant, ce n'est pas joué, ce n'est pas gagné, ce n'est pas coupé dans le marbre. Mais on nous prédit un deuxième tour qui opposerait un candidat ou une candidate du Rassemblement national à Jean-Luc Mélenchon, puisque il a d'ores et déjà déclaré sa candidature. Et puis, avec une autre question derrière, qui est dans ce milieu, le centre, la gauche, on va dire, libérale, progressiste, la droite républicaine, quelle va être leur attitude ? Est-ce qu'ils vont glisser les uns vers LFI mélenchonistes avec cette espèce de résurrection de Fidel Castro ? Après, un peu l'impression d'avoir un nouveau Fidel Castro quand on entend Mélenchon parler pendant des heures devant un auditoire dans un parti politique d'un gros celui trotskiste. Ou à l'inverse, à droite, est-ce qu'ils vont glisser vers et faire alliance avec le Rassemblement national. Je crois qu'une partie de l'angoisse, vous avez eu une échéance municipale ici où il y a eu un changement politique. On va faire de passer l'attention à Cassin, c'est pas le but. Enfin, il s'est passé quelque chose d'important à l'échelle de Sarcelles. Et vous vous demandez peut-être si vous n'êtes pas un peu précurseur de ce qui peut se passer à l'échelle nationale demain. Et ça se comprend tout à fait. Puisque Mélenchon est quand même celui qui, parmi beaucoup d'autres, hein, mais celui qui a le chef de file de ceux qui ont installé le mythe du génocide à Gaza. Je ne suis pas en train de relativiser du tout ce qui s'est passé à Gaza, mais à partir du moment où on voit bien ce slogan. C'est un slogan, idéologique. À partir du moment où on popularise le terme génocide, on en vient à montrer le doigt, non seulement les Israéliens, mais les Juifs comme des génocidaires. Et donc, c'est une façon de les condamner, de les discréditer, de les disqualifier et de les repousser en dehors de la communauté démocratique et humaniste. C'est du jeu. Dans ce dossier de l'Arche, un grand intellectuel qui s'appelle Pierre-André Taguieff, qui a été un des premiers à écrire sur le. Ce qu'on appelle maintenant le nouvel antisémitisme, puisque au fond, l'antisémitisme qui vient de la gauche, qui est une chose, il l'a démontré, qui n'est pas toute nouvelle, mais qui est ancienne, qui est une résurgence, dit ceci, les Juifs sont entrés dans l'ère de leur vulnérabilité. Alors je ne sais pas si, j'ai l'impression qu'il y a eu d'autres ères dans lesquelles les Juifs étaient vulnérants. En tout cas, ce que je constate, c'est que cette angoisse, s'il y a angoisse, s'il y a malaise, il est politique. C'est qu'à un moment donné, on va dire que c'est en train de se mettre en place, que Mélenchon, d'un côté, il y a Mélenchon qui est en train d'installer l'idée, c'est toujours fait comme ça, c'est eux contre nous, eux étant tout ce qui n'est pas nous, c'est-à-dire si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, et tous ceux qui sont contre nous, qui ne sont pas nous, sont des saints de droite, des fascistes, des complices, des génocidaires, etc. etc. Donc, il va essayer de grappiller les quelques centaines de milliers de voix qui lui manquaient pour être au deuxième tour avec ce discours-là. Et moi, je me poserai la question aussi à Rachel et à Michael. Je pense que, contrairement à ce que beaucoup de gens ont l'air de dire, je pense que ça peut marcher. Donc, je pense qu'on a raison de se construire des fonds. Ce qu'on entend de plus en plus souvent, c'est donc derrière ce scandale génocidaire, c'est pas Israël, c'est que derrière ça, et car André Dagueff le dit aussi, ce sont tous les Juifs qui sont soupçonnés d'être eux-mêmes des génocidaires. Et ça, c'est extrêmement grave, et c'est ce qui explique, d'une certaine manière, la vague d'antisémitisme qu'on connaît aujourd'hui. Ça s'appelle souffler sur les braises, et ça s'appelle encourager des actes contre les Juifs dans la vie de tous les Juifs. L'autre chose qui inquiète aussi, dans ce qui est en train de se préparer, comme dans toute, justement, opération de disqualification de mise à l'écart d'un groupe particulier, en l'occurrence les Juifs, c'est montrer que ce sont des bourreaux. Alors, les Juifs ont toujours eu cette image de plutôt d'être des victimes. Et ce qui est en train de se passer, c'est que... Il y a une inversion qui se passe. C'est-à-dire qu'on entend de plus en plus dans les milieux et les fils, ce que j'appelle moi palestiniste, de dire ce qui est en train de se passer, ça ressemble un peu aux années 30, sauf que mes supposés victimes de ce qui se passait ne sont plus les Juifs, ce sont les autres. Ça s'est inversé. Et au contraire, ceux qui seraient à la manœuvre pour les. C'est au fond, la vraie question, si c'est d'installer, c'est l'islamophobie. Je ne veux pas être trop long, mais je pense que. Ce qui s'est passé, d'autres dates clés, évidemment, pour lesquelles qu'on a tous en tête aujourd'hui, c'est le 7 octobre 2023. Pourquoi est-ce que dès le 8 octobre 2023, au lieu d'avoir un mouvement de solidarité avec les victimes, les 1200 et quelques victimes, les Israéliens, leurs familles, beaucoup de Français parmi eux qui étaient en otage, etc., les otages en général, immédiatement, c'était l'inverse qui s'est produit. Parce que ces gens-là, ceux qui essaient d'installer l'islamophobie comme le danger principal en France, ils ont tout de suite... compris le danger. C'est que eux qui travaillaient patiemment pour montrer que les nouvelles victimes, c'était plus les Juifs, c'était les musulmans, parce qu'il y avait l'islamophobie, etc. Ça, ils étaient patiemment en train de construire. Tout d'un coup, il y avait la démonstration de l'inanité de ce qu'ils disaient. Parce qu'il y avait des islamistes qui étaient capables de faire une razzia génocidaire pour le coup, parce que tous ceux qui deviennent de voir l'eau, c'est des Israéliens qui les avaient tués, quelle que soit leur histoire, quelle que soit ce qu'il y avait quelque part. Ben, parce qu'ils étaient juifs, d'ailleurs, il n'y avait pas que des juifs, parce que dans l'eau, effectivement, ils ont aussi tué des Arabes israéliens, des travailleurs immigrés, etc., mais qui étaient coupables, selon eux, d'être des Israéliens, au moins de vivre en Israël. Donc il fallait absolument interrompre ça tout de suite, parce que c'était beaucoup trop dangereux. Et donc c'est de là que, quelle est l'histoire, avant même que l'armée israélienne en Pablo-là, qui est dans une histoire de aussi. Et on est rentré avec 948, etc., pour expliquer qu'au fait, là, ce qu'avait fait Hamas, ce n'était pas du tout un attentat terroriste, c'était un acte de résistance contre une occupation indue. On entendait parler des colonies qui sont de l'autre côté de la frontière, tout était devenu des colonies. Moi qui suis pourtant critique sur ce qui se passe en Judée-Samarie, ces gens-là, je refuse d'utiliser le terme colon aujourd'hui. Parce que je pense que je ne veux pas qu'on m'impose ce terme. Je considère que. Les Palestiniens ont certains endroits au respect, etc. Il y a beaucoup de choses qui me choquent, mais je considère que les Juifs ont le droit de vivre sur cette terre. Donc à partir du moment où on dit colon, ça induit qu'il y a quelque chose. On pense les colons d'Algérie, on pense les gens qui vivent de la métropole. Il n'y a pas de métropole là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je n'utilise plus ce terme. On est tendance à devenir très vigilant sur ce qui est en train de se dire, parce que c'est un vrai combat pour les mots. Génocide, colon, etc. Dès que vous acceptez que l'adversaire installe sa propre terminologie, vous commencez déjà à avoir perdu. Bon, voilà, j'ai déjà trop long, je vais vous présenter rapidement mes vieux camarades. Rachel Bunas, journaliste à Ariane, fait beaucoup de reportages politiques, aussi sur la communauté juive, et notamment Mathilde Bi aussi à Sarcelles. Elle a écrit plusieurs livres, notamment le dernier, qui est trouvé ici, qui s'appelle « Victimes françaises du Hamas, leur histoire dans notre silence ». Position de l'Observatoire. Il est présent, journaliste, notamment à France Europe. Ici, un article très intéressant aussi dans ce dossier de Large. Il est documentariste aussi, il a beaucoup travaillé sur les certains musulmans et pas seulement, sur beaucoup d'autres sujets. Je disais tout à l'heure que l'une des choses qui me heurtait beaucoup dans les périodes qu'on traverse, c'est qu'elle nous pousse à devenir archi-juifs. Alors qu'au fond, moi, en ce qui concerne, je ne me suis pas toujours intéressé aux Juifs, quoi. Mais la période fait que je me rends compte que c'est pas seulement une question de solidarité, c'est mon sens de quelque chose de... J'ai écrit un livre au début des années 2000 sur le nouvel antisémitisme. J'ai choisi ce sujet, pas parce que je suis juif, mais parce que j'avais déjà le sentiment qu'il y avait quelque chose de grave qui était en train de se passer. Voilà. Son dernier livre, donc justement, La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles, et ces deux livres sont publiés d'ailleurs chez Nadia Éditeur aux éditions de l'Observatoire. Alors, je vais commencer à la parole, Rachel. Peut-être rebondir sur ce que j'ai dit, est-ce que vous partagez un certain nombre de choses ou... Vous avez un micro, là, c'est pas la peine.
Je suis équipe. Non. Non. Ça marche pas. Pour enregistrer, mais pas pour parler à tous. Je voulais commencer par vous remercier d'être aussi nombreux, d'avoir fait le déplacement. C'est déjà un acte, c'est déjà une forme d'engagement et de curiosité intellectuelle de votre part. Merci parce que c'est pas toujours fréquent et qu'on a un jour de semaine. Donc, c'est toujours enthousiasmant de voir que des personnes font le déplacement pour venir nous écouter également. J'espère par la suite formuler des questions ou des réflexions, qu'on puisse avoir un échange aussi avec vous. Alors oui, dans ce qui a été dit, je pense que je partage l'architecture. Après, il peut y avoir certaines nuances, mais vous avez...
Sur quoi ? Il faut le dire.
Ça pourrait nous amener assez loin, et j'ai envie de rester dans le thème qui nous est donné ce soir, de partager plusieurs points. Vous avez mis en avant les reportages qui sont les miens. Il se trouve que, autant pour la réflexion et pour l'écriture de mon livre, j'ai eu à partir à plusieurs reprises en Israël pour rencontrer les familles et les proches des otages, des victimes au sens large, français, françaises, qui ont été touchées dans leur chair par ce pogrom. Et puis, je me suis également penchée sur les réactions en France. En quoi le 7 octobre est aussi devenu un événement français? Parce qu'il est venu percuter, qu'on le veuille ou non, il est venu percuter la société française, la politique, et a produit aussi une recomposition politique, on pourra en parler, a bougé comme ça des interdits, et a remis... hélas, à la mode, un antisémitisme pas seulement à gauche, mais de gauche. Et dans ces réactions que l'on a vues en série, il y a une chose, moi, qui m'a marquée, parce que je vous ai en face, donc je voudrais vous en faire part, c'est la ville de Sarcelles et la réaction, ou la non-réaction, ou la réaction finalement assez mesurée d'une large partie de la population. Je vais être très claire. Ce qu'on appelle les quartiers, ce qu'on peut appeler les zones périphériques, les banlieues, qui sont parfois promptes à réagir au moindre incident. Je me suis rendu compte qu'elles étaient plutôt discrètes à Sarcelles finalement, et qu'il n'y a pas eu ces espèces de grands mouvements comme on pouvait le voir autour du milieu étudiant, par exemple parisien. À Paris, les affiches des otages étaient constamment arrachées. On m'expliquait, pour avoir rencontré un certain nombre, peut-être d'entre vous, qu'à Sarcelles, finalement, les choses bon an mal an tenaient. Alors, bien sûr, il y a une nuance à apporter, mais je trouvais intéressant de voir que finalement, Sarcelles n'était pas le laboratoire en France de l'antisémitisme. Et qu'est-ce qui fait donc sa force, et malgré ses faiblesses, bien entendu, mais qu'est-ce qui fait cette distinction-là? C'est à travers ce prisme-là qu'il m'est arrivé d'écrire des articles là-dessus. Pourquoi, grosso modo, à travers l'exemple de Sarcelles, mais il y a d'autres villes, on n'avait pas vu les banlieues s'enflammer. Ce qui dit aussi beaucoup, finalement, de la solidarité qu'on aime à mettre en avant entre le peuple palestinien et les pays arabes. On se rend bien compte, hein, que c'est pas exactement le cas, et que les pays arabes ne se battent pas non plus pour recevoir en leur sein des réfugiés palestiniens. Donc il y a quelque chose aussi à dérouler qui est intéressant à partir de votre vie. Et puis, plus largement, parce qu'en fait, l'antisémitisme qui traverse aujourd'hui l'ensemble du pays et aussi, bien sûr, Sarcelles, parce que c'est pas une bulle, finalement, que l'on voit s'exprimer dans l'Hexagone, et là, je vous rejoins, finalement, a décidé d'enclencher une évolution du langage, de la sémantique, du vocable, où, eh bien, le juif devenait sioniste, sion, voire sio, parce qu'on utilise même des raccourcis, hein, notamment sur les réseaux sociaux, pour échapper aussi éventuellement aux poursuites, hein, aux poursuites judiciaires. Et puis, une chasse aux sions, pour reprendre leurs mots, a été lancée. Finalement, une espèce de signe égal a été mis entre juifs, entre sionistes et puis nazis. À partir de là, ben, tout était autorisé. Après tout, si on avait en face de nous un soutien, voire un génocidaire, eh ben, tout était permis. Et c'est là que le glissement est extrêmement dangereux, c'est-à-dire que les mots viennent à se matérialiser et des mots, des passages à l'acte naissent. Et je voudrais juste avoir, je finirai là-dessus pour ne pas faire trop long, un mot et une pensée pour cette très jeune fille, cette petite fille de 12 ans à Courbevoie, en juin 2024, qui a été violée parce que juive, par des enfants de 12-13 ans, au nom, soi-disant, de la Palestine, hein, parce que pour avoir eu accès à un certain nombre d'éléments du dossier, on n'a pas tout révélé, hein, par respect pour la famille dans la presse, mais le dossier est extrêmement lourd et les détails sont encore bien plus glauques que ce qu'on a pu écrire. Eh bien voilà, tout était permis, y compris l'acte le plus barbare envers une femme, envers une jeune fille, c'est-à-dire le viol. Donc les mots ont des répercussions, les mots se matérialisent et les mots peuvent entraîner un passage à l'acte et derrière une espèce de légitimité des vertueux. Après tout, de toute façon, elle était juive, donc tout est permis.
Merci Rachel. Miguel, on peut parler du rôle de Tige, je pense que tu feras. Mais je voulais partager avec toi, je constate qu'il y a beaucoup, on a parlé d'Emmanuel Macron. Les politiques ont l'air d'être absolument tétanisés par ce qui se passe, pas seulement ceux qui ont choisi pour les raisons que j'explique et que j'ai expliquées, et Rachel a expliqué, pour des raisons de clientélisme électoral, mais tous, ça bouge pas beaucoup. On se souvient qu'Emmanuel Macron n'est pas à la marche contre l'antisémitisme. Il y a les médias qui sont devenus, certains médias qu'on avait l'habitude de lire, qui sont devenus des officines spécialisées dans la critique systématique et permanente d'Israël, et qu'on ne peut plus lire, de fait, parce qu'on a une question d'hygiène mentale. Les ONG auxquelles on est habitué à faire confiance, les Médecins Sans Frontières, les Amnesty International, etc., qui, pareil, maintenant, ne font plus qu'au lieu de défendre les prisonniers politiques, au lieu d'apporter, d'alléger les souffrances des gens et soignants, c'est la critique d'Israël. L'ONU, mais ici, les écoles, les universités, voilà, tout fout le camp, en fait. Ça part de partout.
Merci. Oui, en fait, je crois qu'on se trompe souvent sur l'effet que produit un événement. Je me souviens que, par exemple, Gilles Kepel avait dit, après les attentats du Bataclan, oui, finalement, les attentats vont s'arrêter, ou quelque chose comme ça, parce que il y a des musulmans qui ont été frappés dans le Bataclan, sur la promenade des Anglais, et tout ça va se retourner contre les djihadistes. Et en réalité, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été un rappel à l'ordre des djihadistes parlant aux musulmans et leur disant « Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Et si vous êtes contre nous, vous n'êtes plus considérés comme des musulmans. » Et ça a créé, en fait, un appel d'air vers l'embrigadement dans Daesh en Syrie. C'est pour moi à peu près la même chose qui s'est produit le 7 octobre. Le mot « génocide » a été employé dès le lendemain du 7 octobre, bien avant l'intervention israélienne à Gaza. Et ce mot génocide, il ne date pas d'hier. Je rappelle qu'il a une histoire, il commence dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sous la plume d'un type qui s'appelle Fayez Sayegh, qui était un membre d'un parti ultranationaliste avec la croix gammée syrien, lui-même était chrétien, on dirait libanais aujourd'hui, mais à l'époque c'est la Syrie, qui est devenu un intellectuel, un prof de fac, un diplomate à l'ONU, prof de fac dans des universités américaines, et qui va commencer à, dès les années 50-60, dans des textes, parler de d'un état colonial, d'apartheid et de génocide très rapidement. C'est lui qui, en 75, va faire condamner à l'ONU Israël sous le prétexte, justement, d'apartheid, etc. Donc, ce mot de génocide, en fait, il colle à Israël parce que c'est une revanche sur l'histoire, parce que c'est une forme de diabolisation. Quoi de plus jouissif? Et pour se donner bonne conscience que de voir un peuple qui a été victime d'un génocide, le perpétrer lui-même. Les comptes sont apurés, si on peut dire. Et du coup, on peut redevenir antisémite. Et c'est vrai qu'après la guerre, c'était très difficile, du moins en France et en Europe, de pouvoir l'exprimer. Aujourd'hui, l'antisémitisme, c'est être du bon côté. D'où ce travestissement par les mots, le fascisme n'est plus le fascisme, un génocide n'est plus un génocide. Toute cette falsification du vocabulaire n'a qu'un but, en réalité, pouvoir exprimer une forme d'antisémitisme. Je ne crois pas du tout à l'antisionisme. L'antisionisme est un mot vide, c'est une impasse historique. Le sionisme a eu lieu. Que veut dire être antisioniste? Ça veut dire éradiquer l'État d'Israël. Qu'est-ce qu'on fait de ses habitants? C'est là la question qui n'est jamais posée et à laquelle ils n'ont probablement pas de réponse. Sinon, à nouveau, si vous voulez, sans départir, en les exterminant le cas échéant. Donc tout ça relève pour moi, en tout cas, d'une vague imposture, d'un vaste travestissement des mots et d'une inversion accusatoire, évidemment, mais aussi, au fond, ça me rappelle le nazisme. Je veux dire, lorsque le génocide est mis en place par Hitler, qui font les massacres de masse? Ce sont des policiers, ce sont des gens qui sont censés faire respecter la loi. Et la loi, en l'occurrence, sous l'Allemagne nazie, c'est le meurtre, et le meurtre de masse. Mais en même temps, ces gens qui perpètrent ce génocide ont le sentiment de faire le bien, de faire ce qu'on leur a demandé, de le faire au nom de l'humanité, de le faire au nom d'un idéal. Et pour répondre à ta question, Sylvain, oui, il y a une forme de au niveau politique, je ne sais pas comment le dire, de fragilité, de fébrilité, d'intimidation. Je pense que effectivement, aujourd'hui, la rue arabe dans les pays arabes est relativement calme, mais en France, il y a ce qu'on peut appeler une rue arabe, qui d'ailleurs, à mon avis, n'est pas essentiellement arabe, loin de là. Appelons-la islamo-gauchiste, on nous a dit pendant des années que ça n'existait pas, mais oui, en réalité, il y a des alliances. Il y a des échanges doctrinaux, de propagande, des éléments de langage. Il y a un truc qui m'a frappé immédiatement après cette COP. Pareil, je ne veux pas faire trop long, je ne réponds pas du tout à ta question, mais en même temps, je dis ce qui me passe par la tête. Quelque chose m'a frappé, vous savez, j'étais en 2010, j'étais allé à Gaza interviewer l'un des fondateurs du Hamas, notamment, Mahmoud Azhar, psychopathe, mais très intelligent malgré tout. Et du coup, j'avais regardé la télévision du Hamas dans l'hôtel où j'étais resté pendant quelques jours. Et il y avait eu ces émissions pour enfants, vous avez sans doute entendu parler, des enfants de 4-5 ans ont fait chanter des chants. Quand on comprend les paroles, tout de suite, ça prend une autre dimension. En gros, il faut tuer tous les Juifs, nous reprendrons notre terre, etc. Et ces chansons étaient chantées sous une mélopée qui m'est restée en tête. Et d'ailleurs, j'ai utilisé cette archive dans un de mes documentaires, où les enfants sont amenés à frapper dans leurs mains, à reprendre cette mélopée avec ces paroles d'appel au meurtre. Et immédiatement après le 7 octobre, devant Sciences Po, j'ai vu les étudiants faire une chenille et avec des slogans qui n'étaient pas ceux-là, mais c'était la même mélodie. C'était dire qu'au fond, ceux qui menaient la danse, c'était ces organisations qui sont des émanations du Hamas, qui sont des émanations des frères musulmans, c'est l'EMF, les étudiants musulmans de France, c'est Students for Justice in Palestine, qui a été fondée, qui est très présente aux États-Unis, puisque d'ailleurs l'actuel maire de New York, Zohran Mamdani, a ouvert une antenne de cette organisation frériste au sein de son université du Maine lorsqu'il était étudiant. Et cette organisation s'est constituée à Sciences Po le 8 octobre, dès le lendemain des massacres. Et je voyais bien comment ces jeunes gens, en fait, suivaient cette... reprenaient en cœur cette mélodie qui était ni plus ni moins... Alors, je ne sais pas si elle est courante pour les enfants dans le monde arabe d'une manière générale, mais en tout cas, c'est la mélodie que chantaient ces enfants sur Al-Aqsa TV quand j'étais à Gaza. Voilà. Donc, il y a toute cette... comment dire... ce conglomérat idéologique. Et moi, je ne suis pas sûr... Alors, j'ai été surpris par l'ampleur, notamment aux États-Unis. Je ne m'y attendais pas du tout à Colombie, etc. Mais en même temps, je n'ai pas complètement été surpris par ce recours à l'anti-biais. C'est ce que je disais à Sylvain juste avant. Vous savez, moi, quand vraiment, je passe du coq à l'âne. Lorsque je vois maintenant le drapeau palestinien, ce qui n'était pas le cas à mon époque, lorsque moi, j'étais lycéen, j'avais des amis qui étaient pro-palestiniens. Bon, on était un peu dans l'espace temporel des accords d'Oslo. On pouvait se comprendre, on se parlait, voilà. Mais aujourd'hui, quand je vois le drapeau palestinien, pour moi, c'est je vois la croix gammée, je vois le drapeau nazi. On ne me fera pas croire que ceux qui le brandissent en ont quelque chose à faire des Palestiniens. En tout cas, ce que je peux dire et ce dont je suis certain, c'est qu'ils n'ont rien eu à faire des milliers de morts, des centaines de milliers de morts au Darfour. Ils n'en ont rien eu à faire des 4 millions de morts au Congo. Ils n'en ont pas eu plus à faire des 40 ou 50 000 jeunes assassinés en Iran en deux jours pour avoir manifesté contre le régime. Donc, en réalité, les Palestiniens, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas du tout la région, ni même son histoire. Ils ne savent même pas ce qu'est Israël. Ils ne connaissent pas son cosmopolitisme, etc. Mais l'antisémitisme a toujours été, pour moi, quelque chose qui permet de fédérer. Alors avant, c'est l'extrême droite. Il y avait des chapelles très antagonistes au sein de l'extrême droite, entre les païens, les chrétiens, les anciens collabos, etc. Il fallait bien unir tout ça. Et le centre, le pilier, c'était l'antisémitisme. Et au fond, c'est ce que fait Mélenchon. Il s'est retrouvé avec des woke, des coloniaux, des intersectionnels, bref, un certain nombre de chapelles d'anciens trotskistes, voire même quelques PS dévoyés et autres. Et ce qui fait tenir tout ça, eh bien, c'est toujours la même chose, c'est l'antisémitisme, mais sous couvert d'une forme de positivité nouvelle, sous couvert d'antiracisme. Et ça, c'est extrêmement pernicieux, et c'est le problème avec lequel on se débat principalement aujourd'hui dans cette société.
Ce que tu dis, est, à mon avis, est si vrai que je me dis souvent, et d'ailleurs, en grande partie, ça explique Zay, Camille et Madame Macron à reconnaître de manière tout à fait beaucoup trop tôt et sans contrepartie l'État palestinien, c'est que je disais, au fond, cette forme de manifestation avec les drapeaux, les excès, l'antisémitisme tuant, je me disais, c'est très mauvais, en fait, pour la cause palestinienne, parce que c'était beaucoup de gens qui vont se dire, bah, si c'est ça, et il y avait effectivement après 7 octobre, c'est la même chose que je disais tout à l'heure sur pourquoi il fallait ensuite dire génocide, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens modérés, Macron par exemple, oui, qui se sont dit il faut tout de suite faire quelque chose pour sauver les Palestiniens de cette image-là. Et ce quelque chose, ça a été, à mon sens, le fait de dire vite, appelez-moi Marcoulada, c'est qu'est-ce qu'on va chercher tout de suite. Le seul truc qu'on peut mettre en face, c'est-à-dire, même si elle est corrompue, etc., pour eux, au moins, c'est pas des... On les considère pas comme des islamistes, ils ont pignon sur rue, Ramallah, etc. C'est les bons Palestiniens. Donc, on va aller tout de suite donner aux bons Palestiniens cette victoire politique de dire « on reconnaît votre État » pour essayer de redorer un peu le blason. Mais je me dis que ça ne suffira pas, et je suis trop optimiste, je ne sais pas ce que tu en penses, et au fond, est-ce que tout ça ne peut pas se retourner contre la cause qu'ils prétendent de défendre?
Je crois qu'ils ne défendent absolument pas la cause d'un État palestinien, oui, ni même les Palestiniens eux-mêmes. En réalité, pardon de le dire, mais les Palestiniens n'ont jamais voulu un État. Voilà, ils veulent la disparition d'Israël. Gérer un État, c'est compliqué. On voit bien d'ailleurs que ça ne marche pas du tout. On leur a fait un cadeau empoisonné avec l'autorité palestinienne en réalité, d'une certaine manière. Et finalement, la seule gestion qu'ils en ont est une gestion faite de prévarication. Vous savez, depuis 1947, il y a eu 12 plans de paix et plans de partage, tous plus généreux territorialement que les uns que les autres. Tous ont été acceptés par Israël et aucun par les Palestiniens.
De moins en moins généreux, enfin, celui qu'ils auraient mieux fait prendre, c'était quoi?
Ils le seront de moins en moins, parce que du coup, après, il y a eu effectivement un grignotement territorial qui s'est installé par ceux que tu ne veux pas appeler les colons dans ces territoires. Mais je suis persuadé que l'État n'est pas vraiment une question palestinienne. Ils se sont fait piéger par leur propre discours d'une certaine manière et ils ont été obligés de souscrire d'une manière ou d'une autre à ces accords qu'ils avaient signés. Mais ça ne fait pas partie de la mentalité régionale, ça ne fait pas partie de la mentalité arabe et ça ne fait encore moins partie de la mentalité islamique. Il n'y a qu'à lire la charte du Hamas pour lire en très gros, dès les premiers articles, deux choses. D'une part, l'ennemi, c'est le nationalisme arabe, et donc toute revendication d'un État national sur cette terre est un sacrilège. Pourquoi ? Parce que cette terre, et c'est décerné de manière totalement performative, est un waqf, c'est-à-dire un bien sacré de l'islam, qui concerne pas du tout les Palestiniens, mais l'ensemble de l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, la communauté des musulmans. Et cet espace doit être le centre d'un califat à reconstruire, un califat qui irait en gros du Maroc au Pakistan. Donc voilà, il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a une vision qui était peut-être plus influencée par l'ère du temps, que ce soit le marxisme dans le cas du FLP, que ce soit... Mais d'ailleurs, Arafat était lui aussi assez imprégné de la pensée des frères musulmans, puisqu'il a été le président de la première structure frériste qui s'appelait le syndicat des étudiants palestiniens de l'université du Caire dans les années 50, et il en a été le deuxième président, même s'il n'était pas encarté auprès des frères musulmans. Bon, tout ça pour dire, je ne vais pas non plus rentrer dans des détails infinis, et je vais céder la parole à Rachel.
Sur ce même sujet, Rachel.
Alors, je crois que la réaction d'Emmanuel Macron, du président, dit beaucoup en réalité de lui-même. C'est-à-dire qu'il a le syndrome du sauveur. Ce qu'on ne sait pas ou peu, c'est qu'à la suite du 7 octobre, en réalité, beaucoup de choses ont été faites par la France, de manière très discrète, pour les otages français, ou franco-israélien, qui était retenu à Gaza. Je révèle certains détails dans mon livre, mais par exemple, par une décision du président de la République, alors il ne fallait pas au début que ça se sache, et vous allez comprendre très vite l'enjeu, la nationalité française a été accordée, a été donnée à, par exemple, l'un des pères, qui était israélien, mais marié à une française, il n'avait pas fait les démarches pour obtenir sa nationalité française. Il cochait les critères, mais vous doutez bien qu'à Gaza, c'était un petit peu compliqué de faire les démarches. Et donc, il l'a donné en espérant ainsi que ça allait aider à le sortir de là. Et les familles, les proches qui m'ont parlé, m'ont dit, honnêtement, on a eu un soutien très fort, on était surpris du consulat, de l'ambassade. Ils nous appelaient tous les jours. Ils nous appelaient tous les jours pour prendre de nos nouvelles. Ils n'ont pas eu un appel du gouvernement israélien. Ça les a vraiment meurtris. Hein. C'est-à-dire qu'on voulait rencontrer, c'est des familles qui sont dans tous les États, ben, un coup de fil ou un mot du président. Le président leur a dit, voilà, de quoi avez-vous besoin? Ça a été fait. Il y a eu des...
Ça a été fait aussi pour les Palestiniens. C'est ça, pour les 500 hommes.
Non, je vais quand même avancer étape par étape. Non, mais je vais pouvoir exposer ma démarche librement. Donc ça a été fait. Et ça a compté pour ces familles que j'ai rencontrées. Je ne peux pas le nier. La deuxième chose, je vous ai dit, il a le syndrome du sauveur. Il a eu le syndrome ensuite du sauveur avec les Palestiniens. Ah ben, il leur fallait un État. On l'a dit, et sans contrepartie. ce qui est quand même le béaba de la diplomatie, c'est lorsque vous donnez quelque chose, il y a quelque chose en échange. Ça peut être une reconnaissance, etc. Il n'y a pas de cadeau normalement en diplomatie, ça ne se passe pas comme ça. Et puis une reconnaissance, on n'a jamais trop compris quelles étaient les frontières. Normalement, un État, on vous l'apprend en droit, ces trois éléments, des frontières, un gouvernement, et le troisième ne me vient plus, mais il va me revenir. Là, les conditions n'étaient même pas remplies, qu'on expliquait qu'il y allait y avoir un État. Alors, on n'a pas compris au début, est-ce que c'était une reconnaissance ferme, est-ce qu'il fallait une négociation, et tout ça a été extrêmement brouillon. Et c'est aussi en ça que ça n'a pas pu être saisi et pensé par les Français eux-mêmes, au moment même, d'ailleurs, où l'antisémitisme battait des records. Parce que, certes, l'antisémitisme a été multiplié par 10 entre 99 et 2000, hein, au moment de l'intifada, mais la courbe est ascendante, et même si parfois il peut redescendre un petit peu, nous ne revenons jamais au niveau initiaux, et c'est pas la marge de l'histoire. Alors, j'en discutais avec Gérald Ben-Sussan, le philosophe, qui m'expliquait, et ça a fait écho aux propos de Monsieur le Président, que selon lui, en fait, nous n'entrions pas dans une parenthèse difficile, qu'en fait, les belles heures étaient passées, et c'était ça l'exception. Et que là, finalement, les Français juifs, les Juifs français, retournaient au statut, hélas, originel. Et qu'on avait vécu une parenthèse enchantée, mais que ce n'était plus le cas aujourd'hui. On l'a dit, l'antisémitisme bat des records, et l'un des exemples extrêmement forts qui est venu lors de l'écriture de mon livre et des rencontres, c'est la seule personne qui m'a demandé, pour témoigner, l'anonymat, qui m'a demandé est-ce que je ne cite pas son nom et son prénom et que je puisse anonymiser son histoire autant que possible. La seule personne qui m'a demandé ça, je l'ai fait bien sûr, vous en doutez, c'est une Française qui n'avait aucun lien jusque-là avec le judaïsme, qui découvre les kibbutz en Israël lors d'un voyage et qui tombe amoureuse d'un Israélien et qui va se marier avec lui, avoir un enfant et s'installer dans le kibbutz à la frontière avec Gaza. Ils ont un enfant qui a 6-7 ans au moment du 7 octobre. Son mari va survivre dans des conditions absolument lunaires. En fait, il est dans le local à poubelle et le Hamas n'a pas idée de fouiller le local à poubelle. Il va rester là jusqu'à 22 heures ou 23 heures avant qu'on vienne le chercher et le libérer. Et la décision qu'ils vont prendre et qui est tout à fait compréhensible. Elle va lui demander, parce qu'en fait leur enfant est traumatisé hein, de ce qui vient de se passer, de rentrer en France. On peut aisément le comprendre. Et donc ils vont rentrer en France. Enfin, elle rentrer, son fils aussi. Après tout, les grands-parents sont là. Et puis le père israélien va suivre, bien que ce ne soit pas son pays. Et bien quand elle arrive, le premier conseil qu'on lui donne, une recommandation, qui est une recommandation chaleureuse et bienveillante, hein, qu'il souffre donc une forme de soupçon quant à un antisémitisme dissimulé, c'est lui dire surtout, ne parle pas, ne raconte pas ton histoire. Ne parle pas, ne raconte pas, et puis dans les transports en commun, si possible, ne parle pas hébreu. Ne parle pas hébreu parce que ça peut être dangereux. Et elle encore, elle est dans une zone, on va dire en Île-de-France, pour rester large, plutôt privilégiée et protégée, hein. Mais on lui demande expressément de ne pas raconter son histoire. Son histoire n'est qu'une chose. Son histoire, c'est celle d'avoir été, avec la famille, victime du 7 octobre. Et simplement ça. Et ça nous renvoie à cette espèce d'incapacité à penser le 7 octobre seulement en tant que 7 octobre. On peut le penser sans ensuite penser la guerre, réfléchir sur, comme on a pu le permettre aux victimes du 11 septembre. On peut penser le 11 septembre sans ensuite forcément se pencher sur ce qui découle. Mais ça vous montre à quel point ce statut de victime est complètement nié et à quel point l'invisibilisation, autant que faire se peut, est exigée si on veut être en sécurité en France. Voilà.
Merci Rachel. Je vais passer la parole à la salle dans un instant, mais je voudrais avant ça vous poser juste une dernière question. Donc, on revenait
sur le thème qui était plutôt du climat français.
Parce qu'il y a, j'étais frappé en lisant le dossier, il y a deux façons de voir les choses, et ça correspond un peu au dilemme qui est posé à la plupart des juifs français. Il y a quelqu'un comme P.N. Simon Naoum qui dit de manière très ferme, et c'est aussi le discours souvent du Front social, il faut être absolument ferme dans le rejet des deux extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite. Sauf qu'on se dit aussitôt, ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ben, très bien, mais qu'est-ce qui se passe si on doit choisir entre l'un et l'autre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est d'ailleurs une question qui n'est pas posée que aux Juifs. Beaucoup de gens se la posent en France. Et puis, il y a quelqu'un comme, encore une fois, Taguieff, qui dit, qui ne se prononce pas sur la question politique à proprement parler, mais qui dit une chose, qui dit aujourd'hui, au fond, il y a un parti politique qui s'appelle le Rassemblement National, sur lequel on peut ne pas avoir d'illusions. On sait très bien qu'il y a encore à fond antisémitisme historique, etc. Mais bon, il y a une évolution du discours, l'aspect des institutions. Il n'y a pas d'agression verbale contre telle ou telle catégorie de la population, même si on dit qu'ils sont islamophobes, on n'entend rien de particulièrement agressif contre aucune catégorie particulière, même s'il y a un discours sur l'immigration, mais c'est pas... Voilà, on peut discuter de l'immigration, c'est pas un sujet tabou. Et de l'autre côté, il y a un mouvement, et c'est ce que dit Taguieff, qui est en fait le nouveau fascisme. Et c'est ce que tu sais, au fond, quand tu parlais de... Tu disais le groupe palestinien. Pour toi, c'était l'étendard de Jérôme Tanugo d'Aziz. Donc, il y a ces deux positions-là. Peut-être que vous aurez à cœur de vous exprimer là-dessous. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, comme citoyen français, puisque, encore une fois, ce n'est pas une question qui ne se pose qu'aux Juifs, mais c'est une question qui est aussi posée peut-être plus, de manière plus prégnante, enfin angoissante, très palpable aux Juifs. Rachel, tu veux commencer?
Alors, je vais être très claire, je suis assez mal à l'aise, trop personnel, hein, avec les consignes politiques. Je dis ça de manière générale, en guise introductive de mon propos. D'une part, parce qu'à partir du moment où des partis politiques sont là et que des choix doivent s'exercer, qu'ils obéissent aux règles républicaines libres à chacun. Et en plus, parce que je pense que les Français, quels qu'ils soient, sont assez grands pour savoir ce qu'ils veulent ou ce qu'ils vont voter en leur âme et conscience. Toujours est-il qu'il y a certains éléments de réponse qui expliquent ce que vous avez très bien détaillé, cette espèce de scission, de tiraillement entre deux lectures qui sont aujourd'hui faites et qui agitent d'autant plus depuis le 7 octobre et qui sont de plus en plus accrues dès lors qu'on se rapproche de l'échéance. Pourquoi, en fait, cette espèce de malaise? Parce qu'on voit bien aussi la résurgence de cet antisémitisme de gauche que l'on pensait jusque-là relégué aux marges et finalement réglé avec la question de Dreyfus. Là, on se rend compte que non, pas du tout. Ce n'est pas le cas, il se réveille. Et c'est sorti de Jean-Luc Mélenchon au moins ambigu, si ce n'est plus. Alors, je ne vais pas en faire la liste parce que je vais forcément en oublier, mais ça va de Corbyn, qui finalement était la victime, souvenez-vous, du lobby juif, au peuple déicide, on a toutes les couleurs, hein, à bien sûr l'antisémitisme résiduel, les réflexions sur Yael Braun-Pivet ou Elisabeth Borne, et puis Epstein, vous l'avez vu passer. Dans une des récentes études de la CNCDH, étude de 2024, si je ne vous dis pas de bêtises, publiée en 2025, on voit bien qu'il y a une augmentation, et c'est corroboré par d'autres, hein, l'IFOP avec AGIC, etc., une augmentation de l'antisémitisme au sein des sympathisants de gauche, qui est très forte, une réaction face aux préjugés qui est de plus en plus forte et qui est exacerbée au sein d'une population extra-européenne d'origine musulmane. Tout ça, en effet, explique aujourd'hui cet état de tension qui est tel, et vous savez sûrement, aujourd'hui, on doit, c'est pas nouveau, ça a commencé fin des années 80, les premiers cas sont dans les années 90, et ça n'avait que crescendo, on doit changer de classe des enfants juifs, ou supposés, que ce soit réel ou supposé, dans un certain nombre d'établissements, qui ne cessent d'augmenter en France, parce que juifs. Ce n'est pas l'extrême droite qui les chasse. Donc je comprends le tiraillement qui est celui aujourd'hui de la communauté juive, des juifs, et même plus largement, vous l'avez dit, des Français dans le ton général. Moi, ce qui me peine un peu, à vrai dire, c'est que ces sorties qui s'expriment au sein d'une gauche, alors qu'on dit l'extrême gauche, mais qui peut être assez large hein, parfois et déborder un petit peu, ben, finalement ne provoquent pas plus d'émotions et de vagues de censure, de rejet de la part des électeurs. Je ne sais pas exactement quel est le moteur premier. Est-ce que c'est le moteur social? Est-ce que c'est le fait d'activer ce ressentiment-là qui, aujourd'hui, mobilise pour le vote? Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de rejet derrière. Alors, je suis désolée, je sais que je n'ai pas totalement répondu à la question qui m'a été posée, mais c'est ma réponse.
Oui, oui, juste avant de la parole à Gaël, compléter ce que tu viens de dire très justement, c'est on est tous fascinés, sidérés par le fait de dire « c'est devant nous ». Tout est devant nous, tout est sur la table, tout est à portée de tout le monde, il suffit d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et en fait, il ne se passe rien. Deux choses qui viennent de se passer dans ces derniers jours, enfin, un qui est un peu plus vieux et un qui est vraiment d'hier. Je suis tombé sur une interview grâce à Memri sur une chaîne arabe, la responsable du Hamas, je vais tout petit, tu les suis tous, j'ai vu son antenne, qui a dit, oui, mais... c'est très intéressant ce qui se passe dans les universités occidentales. D'ailleurs, on investit beaucoup. Alors, on pense évidemment à l'argent du Qatar, au Qatar qui est devenu déjà le fournier financeur des universités américaines. Il dit oui, mais c'est très intéressant. On investit beaucoup sur ces mouvements. Tu as parlé de Justice for Israel, Justice for Palestine. Donc, il le dit. Il dit oui.
Ils sont très contents d'eux.
C'est pas qu'une allusion gratuite de gens illuminés comme nous, de parti pris. Et la deuxième chose, c'est, ça m'a halluciné. Il y a eu plusieurs tentatives pour quand même obtenir cette démission. Il s'agit de Francesca Albanese, vous voyez qui c'est, qui est la rapporteure de l'ONU sur RSI. Notre ministre des Affaires étrangères a encore été très brillant, puisqu'il a commencé d'un truc qu'il fallait qu'elle démissionne parce qu'elle était antisémite, et puis après, il s'est déballonné complètement parce que. Il y a eu trois questions d'LSI à l'Assemblée. Hier, au entière, elle a donné une interview dans laquelle elle dit textuellement ceci. Elle demande à l'Allemagne, parce qu'elle a bien senti qu'en Europe, qu'il y avait un État qui existait un peu quand même à cette pente de l'anti-judaïsme, etc., pour tous les réseaux historiques que vous pouvez imaginer. Elle a sommé pratiquement les Allemands de se débarrasser, je la cite hein, textuellement, de se débarrasser de la culpabilité de la Shoah. En quoi c'est son boulot? Elle est rapporteure de l'ONU sur la Palestine. Elle vient dire aux Allemands, il faut arrêter de former les Juifs, en gros. Et on n'a toujours pas réalisé à quel point elle était antisémite. Mais voilà, il suffit encore une fois d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Mais il semblerait qu'il y a des gens qui font comme s'ils n'entendaient pas et qu'ils ne voyaient pas.
Oui, c'est assez déconcertant pour reprendre ce que disait aussi Rachel, l'aphasie, la mollesse. Une majorité de Français, quand on croit les sondages, qui ne se reconnaissent pas dans les positions et l'antisémitisme de LFI sur ces sujets. Moi, j'étais très frappé après le 7 octobre, j'étais en train de finir un documentaire qui n'avait rien à voir, c'était sur les Yakuza, la mafia japonaise, et j'appelle ma production, ce ne sont que des jeunes femmes, un peu plus jeunes que moi, pas soupçonnable une seconde d'antisémitisme ou autre, bien au contraire. Et moi, j'étais dévasté parce que c'est par le 7 octobre. On était vraiment le lendemain ou le surlendemain. Le surlendemain, puisque c'était un lundi. Et je sens qu'elle est. Elle était, comment dire, empathique à mon égard. Mais elle n'était pas concernée. Et j'étais très surpris. Moi, voilà, je ne l'ai pas subi le 7 octobre. Et donc, je pense qu'en fait, le gros des Français ne se sentent pas nécessairement concernés. Ils ne voient pas à quel point, effectivement, c'est l'oiseau dans la mine, qu'en réalité, le danger court Et il court et il se répand par capillarité à la vitesse de l'éclair, en réalité. Ils ne se sentent pas vraiment concernés. Alors ensuite, pour répondre à ta question, bon, moi, je suis plus sur la position de Taguieff. Je ne vais pas non plus donner des consignes de vol, loin, loin s'en faut. Et d'ailleurs, j'en serais bien incapable, vu que moi-même, je suis très embarrassé. En réalité, il y a plusieurs choses. Il y a le constat, il y a l'analyse et il y a la pratique. Sur le constat, oui, aujourd'hui, il y a clairement un parti, plutôt un mouvement, ce n'est pas un parti, qui fait son beurre et sa notoriété et ses suffrages sur le dos de l'antisémitisme. Et que tout est bon pour manipuler dans tous les sens cet antisémitisme pour pouvoir gagner les élections. Et de l'autre, on a un parti qui a un lourd passé antisémite et qui considère que cet antisémitisme, aujourd'hui, s'il est visible ou revendiqué, c'est pas bien. Donc, a priori, même si c'est hypocrite, je préfère quand même cette option-là. Maintenant, quant à savoir concrètement si moi, il y a demain au second tour, un second tour qui oppose LFI au RN, ce que je vais voter, je vais vous dire franchement, je change à peu près tous les jours d'avis. Je me dis, oui, je ne pourrais pas laisser faire LFI, machin, je serais contraint de voter RN, et puis le lendemain, je me dis, non, je voterai blanc, c'est pas possible. Et ensuite, il y a autre chose, quand même, c'est que la question de la France ne m'est pas complètement indifférente. Et je sais que dans les deux cas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe économique, c'est une catastrophe sociale, sociétale, sans compter que je pense, je suis sûr, que dans la tête d'un Mélenchon, il y a deux options. Soit on obtient le pouvoir par les urnes, soit on le prendra, voilà, si l'occasion se présente, par un coup de force révolutionnaire. C'est un parti qui a un impensé révolutionnaire, et je pense que dans sa stratégie, il n'attend que ça. S'il ne gagne pas les élections, eh bien, il ne les perdra pas non plus, parce qu'à ce moment-là, il poussera à la violence, et le risque de guerre civile est évidemment important.
C'est sans risque
absolument le signal envoyé par Bali Bagayoko.